Bonjour, c'est bien ici la bibliothèque municipale?
Oui, monsieur, c'est ici.
Wow, c'est beau, hein? C'est super bien décoré, c'est vraiment beau, ouais.
Est-ce que je peux vous aider?
Là, ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je peux de ça à personne.
C'est pour ça que je dis jamais rien. C'est un vrai piège à con, cette histoire-là. En plus, je sais pas lire.
Et enfin, troisième question. Guillaume Batz est-il contagieux? Oui. Hein? Alors rassurez-vous, si vous êtes contaminé aujourd'hui et que dans quelques jours, vous commenciez à voir apparaître quelques petits changements physiques, il existe un traitement très efficace. Le courage.
Bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission Délivrez-vous, votre rendez-vous mensuel sur Principe Actif, en compagnie des bibliothécaires de l'Eure. Aujourd'hui dans l'équipe, on retrouve Pauline.
Bonjour, de Verneuil, bonjour.
Priscille.
De Breteuil, bonjour.
Anne-Marie.
Bonjour, Bibliothèque Anne-Franck de Danville, commune nouvelle de Ménil-sur-Iton.
Amélie.
Bonjour, de Breteuil également.
Et toi Sandrine?
De Bourthe.
Oh, c'est dingue, t'aimes pas lire? T'as pas lu Proust? Oh là là, je te crois pas.
Du courage. Comme le souligne si bien Guillaume Batz, humoriste atteint de la maladie des os de verre. Il en faut pour faire face à la maladie ou au handicap, thème que nous aborderons aujourd'hui avec nos coups de cœur. Mais aussi grâce au documentaire que vous pourrez voir dans les médiathèques de Breteuil et de Verneuil à l'occasion du mois du film documentaire en novembre. L'entrée y sera libre et gratuite, ces projections seront suivies d'un débat. Mais nous vous donnerons tous les détails au cours de l'émission avec Priscille et Pauline. En attendant, nous vous présenterons nos choix littéraires. Alors Amélie, tu nous présentes quoi aujourd'hui ?
Alors je vais vous présenter un roman d'Agnès Ledig qui s'intitule « Dans le murmure des feuilles qui dansent » aux éditions Albin Michel. C'est un roman qui est paru en début d'année. Pour ceux qui la connaissent déjà, Agnès Ledig est une auteure, du coup une sage-femme. Elle s'inspire de sa vie personnelle pour écrire ses romans. Et celui-ci notamment concerne la maladie de son fils qu'il a eue étant tout petit, une leucémie. On retrouve dans chacun de ses romans une part de vécu qui fait toujours ressortir une émotion toute particulière. Dans le murmure des feuilles qui dansent, on a deux histoires différentes reliées par un mince fil conducteur. Dans le premier récit, on découvre Anaëlle, une jeune femme qui se reconstruit doucement après un accident qui lui a laissé de lourdes séquelles. Elle est passionnée d'écriture et pour se documenter pour son prochain roman, elle décide de contacter un procureur, Hervé Leclerc, pour obtenir des réponses à toutes ces questions. Et à travers leur correspondance, Hervé et Anaëlle vont nouer des liens qui vont aider la jeune femme à prendre confiance et à croire en un avenir meilleur. En parallèle, on suit l'histoire de Thomas, un menuisier, donc un jeune homme également, passionné par la nature, qui mène de front une vie professionnelle très active et une vie personnelle très compliquée. En effet, il tente d'épauler au mieux son petit frère Simon, qui a 8 ans et qui est atteint d'une leucémie, grâce à ses connaissances des arbres et des sous-bois. Donc comme je vous l'ai expliqué, il y a une grande partie de correspondance, donc on est sur un roman épistolaire. Si certains d'entre vous ont déjà lu des romans d'Agnès Ledig, vous ne serez pas déçus par celui-ci. On retrouve comme d'habitude des personnages très humains, cabossés par la vie, mais avec de l'amitié et de l'amour qui subliment les vies et aident à se reconstruire et à reprendre confiance en la vie. Et puis surtout, malgré la trame très dramatique de l'histoire, il en demeure que ce livre est un roman positif. Les bonheurs simples sont parfois les meilleurs. D'ailleurs, une grande place est laissée à la nature, ce qui nous permet de nous ressourcer, de rêver, une véritable hymne à la vie. On oscille tout au long du récit, entre rire et larmes. C'est sans aucun doute un de ces romans qui ne vous laisseront pas indifférents. Je vous... Oui, une petite... Non, il me semblait que Priscille avait une question, mais peut-être pour plus tard. Du coup, j'enchaîne, je vous présente un petit roman. Donc, j'ai sélectionné un passage où du coup, Thomas se prépare à aller à l'hôpital voir son petit frère et où on ressent bien toute la part de nature qui est très importante dans le roman. Journée maussade. Cela n'a pas empêché Thomas d'enfiler ses chaussures de marche et de crapahuter à la recherche d'un écureuil. Il se demande si l'apparition de l'un d'eux devant lui alors qu'il est sur le retour est réellement due au hasard ou si quelqu'un tire les ficelles du destin. Depuis des mois, il réfléchit beaucoup à ce foutu hasard qui a jeté son dévolu sur un enfant de 8 ans, qui aimait jouer dans le sable, au foot avec ses copains, se promener en forêt et aller à la piscine. Toutes ces activités le fatiguaient depuis quelques mois. Beaucoup trop pour que ce soit anormal. À 8 ans, on déborde d'énergie. On ne cherche pas son souffle comme un poisson échoué sur la berge. Quand le couperet de la maladie est tombé, il a guillotiné le tas de sable, le foot, l'école, la forêt, la piscine, le cinéma, les repas de famille, Annabelle, le journal à aller acheter seul et fier, le chat à caresser, les vacances à la mer, et tout le reste. Quick, on change de trajectoire. On bouleverse les programmes, comme à la télévision quand quelque chose de grave arrive, sans connaître le moment où tout va rentrer dans l'ordre, ni même si cela arrivera. Les médecins annoncent un taux de survie dont on ne sait d'abord que faire. Elle n'est pas là d'emblée, cette force de décider au fond de soi que l'enfant sera du bon côté des statistiques, du côté de ceux qui survivent. Elle n'est pas naturelle. Il faut se faire violence pour l'installer solidement, pour d'un coup de massue rageur abattre la peur de perdre. Et puis un jour, vous comprenez que la vie est ici, dans l'instant, puisque rien ne dit qu'elle sera là encore demain, et après-demain, et les jours suivants. Alors vous la traversez un peu plus fort, un peu plus doux, un peu plus rire, un peu plus fou. Donc voilà pour le petit extrait. Vous pouvez également retrouver ce roman dans les bibliothèques de Bourthe, d'Anville et Verneuil. Et je vous laisse en compagnie de Priscille qui va à son tour vous présenter le sien.
Et oui, et moi je vais vous proposer un livre qui est sorti cet été pour la rentrée littéraire et qui s'appelle Miss Jane, écrit par Brad Watson aux éditions Grasset. Donc il est traduit de l'américain et il a été sélectionné notamment pour le prix Médicis étranger. Il est dans les dernières sélections, on saura le 6 novembre s'il a un prix ou pas. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a une autre sélection pour un prix un peu moins connu. J'ai pas eu le temps de faire tout le détail, mais en tout cas, voilà, ça, on est quand même en possession, voilà, d'un roman de bonne qualité qui se lit très facilement, accessible à tous et qui du coup nous plonge dans l'Amérique du début du XXe siècle, dans une famille rurale qui s'occupe d'une ferme avec des métayers. Et donc cette famille va être bouleversée par la naissance assez surprise, en tout cas non voulue, d'une petite fille qui naîtra avec un handicap. En fait, la naissance se passe assez silencieusement finalement. Il n'y a pas toute cette joie qui entoure une naissance, mais vraiment plutôt ce silence pesant de quelque chose qui ne va pas, mais qu'on n'arrive pas à nommer. On est vraiment dans une famille paysanne, donc auprès de personnes qui sont pas forcément dans des flots de paroles, qui disent leurs sentiments, etc. On en est vraiment loin, justement. Et cette petite fille, du coup, va grandir dans cette famille, avec son handicap. En fait, il se trouve que son sexe n'est pas complètement formé, donc elle est totalement incontinente et elle ne pourra jamais avoir de relation. Elle est suivie par son médecin de famille, avec lequel elle va nouer une véritable relation. Donc cette petite fille, on la voit vraiment grandir, finalement on la suit jusqu'à sa mort dans ce roman. Et elle est vraiment très attachante parce que du coup, on va réfléchir avec elle sur le sens de la vie, sur le poids du handicap. Et elle justement, déjà toute sa petite enfance, elle n'en est même pas consciente de ce handicap. On va la voir après, jeune femme, qui va justement vivre comme si rien ne s'était passé, comme si tout était normal. Et c'est ça justement qui est beau aussi, et c'est très touchant. C'est assez triste aussi par moments, mais c'est vraiment très touchant. Et on suit aussi du coup ce passage de l'histoire des États-Unis, donc au début du 20e, où il va y avoir aussi la crise financière des années 30, et toute cette partie aussi de l'avancée de la médecine, parce que du coup ce médecin de famille va vraiment s'impliquer dans le handicap de cette jeune femme pour essayer de trouver une solution, une opération éventuellement possible, qui ne le sera en fait pas. Mais du coup, on voit où en est la médecine à cette époque. Et ça a aussi pas mal de sens pour se plonger dans ce récit. Vraiment un récit finalement et historique et aussi une belle histoire de vie. Moi, j'ai été touchée par ce roman justement pour ce regard sur le handicap. Et je me posais la question, comment l'auteur a pu trouver une idée pareille ? Ce type de handicap, on n'en entend pratiquement pas parler. Donc j'étais assez étonnée. Et j'ai su, grâce à notre libraire, qu'en fait, l'auteur avait déjà mis 13 ans pour écrire ce roman. Donc il est vraiment abouti, ça se sent. C'est pas le temps qu'on met généralement quand même pour écrire un roman. Et il s'est inspiré du handicap de sa tante. Donc en fait, c'est cette tante qui avait cette maladie à cette époque-là, ou en tout cas plus tard, j'avoue que là, je ne sais plus. Mais du coup, on comprend mieux pourquoi c'était si important d'en parler. Donc voilà, je le conseille vraiment à beaucoup de monde, parce qu'il est vraiment accessible à tous au niveau de l'écriture et on s'attache vraiment à cette petite fille. Je vais vous lire le début. Jamais on aurait cru qu'une personne affligée d'une telle malformation fût ou pût être joyeuse, qu'elle ne se lassât pas à aller à la mélancolie ou qu'elle n'eût pas le goût du malheur. Très tôt, elle s'était trouvée des façons de composer avec sa vie, la vie en général. Et en grandissant, il devint évident qu'elle ne craignait, pour ainsi dire, rien, seuls les chevaux peut-être, et quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir, une présence insolite qui n'était pas, ou pas entièrement en tout cas, de ce monde. Elle ne redoutait pas ces fièvres qui avaient emporté son frère William à l'âge de 3 ans, avant sa propre naissance. Dans son esprit, pareil destin était celui de cet enfant-là, pas le sien. Elle ne craignait pas les serpents, pas même les venimeux, persuadée qu'ils ne la mordraient jamais si elle les laissait tranquilles. Les moustiques, pour une raison qui leur appartenait, ne la piquaient pas, bien qu'elle ne prît contre eux aucune protection. Elle n'avait pas peur des poules, parce qu'elle les jugeait d'une sagesse cosmique, en dépit de leur stupidité proverbiable. De même pour les cochons, malgré leur affolement fréquent et inattendu, ou leur assourdissant concert de panique étrangement orchestré qui l'effrayait au début, jusqu'à ce qu'elle en perçût le caractère burlesque. Ses mouvements de frayeur étaient intempestifs, ils disparaissaient aussi vite qu'ils étaient venus. Les vaches, à l'évidence, ne présentaient aucun danger, sauf si on menaçait leurs petits. Le taureau, quant à lui, était soigneusement tenu à l'écart, dans un petit enclos réservé. Elle n'avait pas peur des coyotes, qui jappaient la nuit dans les champs, ni des panthères dont les feulements montaient parfois du plus profond des bois. Elle adorait s'agenouiller devant la fenêtre pour écouter le cœur des coyotes et imaginer ce qu'ils pouvaient bien se chanter et l'importance que revêtait pour eux cet échange. Cela ne la dérangeait nullement qu'ils déchiquetent mulots, lapins et écureuils, ni qu'ils pourchassent les faons nouveau-nés, ni que les panthères emportent parfois un petit veau. L'étrange peur qu'elle éprouvait d'un animal inconnu, voire légendaire, née la nuit où elle s'était imaginée en entendre grogner un à proximité de la maison et où elle avait été terrifiée. Elle ne craignait pas Dieu, jugeant peu digne de confiance le rusé équilibre qu'il maintenait entre la haine et l'amour, mais qui s'était montré suffisamment curieux pour se rendre vulnérable et rejoindre les rangs d'humains tout pareils à elle dans la si belle et si poignante incarnation de Jésus. Elle avait peur des chevaux, car quand ils levaient brusquement la tête vers le ciel en roulant des yeux fous, elle s'imaginait qu'ils en savaient plus qu'elle sur les raisons de craindre ce qui rôdait dans l'air, dans l'enclos du monde matériel. Elle ne redoutait pas les mulets, dont son père lui avait expliqué qu'ils étaient plus intelligents et moins imprévisibles que les chevaux. Et ensuite, elle aima l'idée, quand elle le comprit, qu'ils n'avaient pas de descendance. Petite, elle tremblait devant les étendues d'eau stagnante parce que, pour une raison mystérieuse, elle se les imaginait insondables. Mais son père l'avait guérie de cette appréhension en l'emmenant pêcher dans leur mare et en la convainquant d'y patauger pour se rafraîchir et de sentir le fond boueux sous la surface. Néanmoins, elle n'avait jamais pu apprendre à nager. Sa mère était pour elle davantage une énigme qu'une menace, souvent en proie à des emportements soudains, mais sans doute plus en colère contre quelque chose à l'intérieur d'elle-même que contre les autres. Jeanne apprit à essuyer les mots sombres et violents, comme une brise néfaste dans un univers traversé de vents d'intensité variable, mais éphémère et sans grandes conséquences. Elle détestait l'humiliation de son incontinence, et elle espérait en grandissant la voir disparaître, mais elle finit par l'accepter comme une part d'elle-même, malgré les désagréments occasionnés. Elle décida qu'elle vivrait comme n'importe quelle fille, du mieux qu'elle le pourrait, et quand cela se révéla impossible, elle s'adapta aux conditions particulières de son quotidien, en conséquence. Et donc, elle ne craignait pas sa propre singularité, même si la conscience qu'elle en avait s'intensifia et évolua au fil des ans. Avec le temps, la beauté de l'enfant émaciée, aux cheveux sombres et aux yeux bleus, qu'elle était devait se métamorphoser. Les années l'aiguiseraient, elle deviendrait un signe perceptible de la dissemblance, de sa farouche liberté, et un message silencieux adressé à tous ceux qui, pour qui sa présence au monde paraissait impénétrable, au-delà d'un seuil dont elle seule avait décidé.
J'ai l'impression dans ton roman, un peu comme dans le mien, que la nature prend une grande part. Est-ce oui. que c'est le cas ?
Oui, oui, c'est le cas parce que, alors de manière très simple, parce que cette petite fille du coup vit voilà, dans une ferme en plein milieu de la nature finalement. Les voisins sont pas tout proches, mis à part les métayers qui s'occupent aussi de la ferme. Et elle ne va pas à l'école, ou en tout cas elle en a une très petite expérience. Du coup elle passe toute son enfance seule du coup dans la nature. Donc elle, voilà, c'est vraiment une petite fille, contrairement à tous les autres enfants, qui va avoir aucune crainte de tout ce qui se passe dans la nature, aucune crainte de presque rien d'ailleurs, mais qui va vraiment être très particulière.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un petit côté philosophique ou pas du tout dedans ? Parce qu'on...
Bon, alors, bah voilà, philosophique, là, au début, ça se ressent. Après, on est vraiment dans les pensées de cette petite fille ou de cette grande fille, d'ailleurs. Donc, c'est une réflexion sur la vie, oui, oui. Mais de manière très simple. C'est pas un texte,
oui. philosophique. Fait vraiment pour réfléchir, c'est avant tout pour divertir, mais avec derrière un petit
Ça fait forcément
regard.
Réfléchir. Oui, oui. Déjà, quand on sait que l'auteur a mis 13 ans pour l'écrire, on se dit qu'il avait vraiment envie de faire passer quelque chose. Et c'est effectivement un roman qui laisse quelque chose derrière lui.
C'est le genre de roman où on fait une pause et avant de reprendre une autre lecture.
C'est ça.
Ok.
Et alors justement, moi j'aurais une question pour vos deux livres, Amélie et Priscille.
Oui.
Compte tenu du thème, est-ce que on pleure ?
Le mien, on pleure.
D'accord.
On pleure de joie et on pleure de tristesse également. Enfin, il y a vraiment deux parts autour des larmes, je pourrais dire. Après, c'est un texte vraiment qui prend aux tripes aussi. Après, je pense que quand on parle d'un enfant, de toute façon, tout le monde y est quand même très sensible. Mais oui, on verse des larmes. Il y a un passage où on verse des larmes, mais je ne vous en dis pas plus. Si vous avez la curiosité, n'hésitez pas à l'emprunter.
Par contre, peux-tu rappeler le titre, s'il te plaît ?
Oui, « Dans le murmure des feuilles qui dansent » d'Agnès Ledig.
Donc pour le mien, Miss Jane, on pleure pas forcément. Par contre, il y a vraiment au moment où on arrive aux deux tiers du livre où on se sent de plus en plus triste pour cette femme qui pourra jamais avoir une vie normale. Et là, on a envie de refermer en se disant « c'est pas possible, je veux pas que ça se termine mal ». Je vais pas dire la fin, mais on n'est dans le malheur total, ni dans le bonheur non plus. C'est vraiment une légère tristesse qui reste jusqu'au bout, mais qui s'apaise quand même un petit peu.
D'accord.
Dormir. Donc je roule, 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 roule dans les rues de ma demande pourquoi, mais ainsi va la vie. Au moins cette fois, ta douleur n'est plus là. Tu reposes en paix, on croit au paradis. Tu nous voulais fort, tu nous voulais heureux. Donc j'ai repris le sport, j'ai fait de mon mieux. Mais la nuit, ton souvenir fait trop de bruit, impossible de dormir. Donc je roule, 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 roule dans les rues de ma ville. Larme à l'œil, la boule au ventre. Je refais le monde avec des si. Oui, je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, majeur en l'air en insultant ta foutue maladie. Rien ne sera plus comme avant. Je roule, 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 roule dans les rues de ma ville. Larme à l'œil, la boule au ventre. Je refais le monde avec des si. Oui, je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, majeur en l'air en insultant ta foutue maladie. Oui, je roule.
Nous venons d'écouter Soprano avec son titre « Roule ». Juste avant, nous avions proposé du coup deux titres, « Miss Jane » de Brad Watson et « Dans le murmure des feuilles des... qui dansent » d'Agnès Ledic. Et nous allons écouter maintenant Pauline et Sandrine qui vont nous proposer des adaptations livres-films, donc deux différentes. Je leur laisse la parole.
Donc pour ma part, je vais vous parler de Jack et la mécanique du cœur, qui est un film d'animation français réalisé par Stéphane Berla et Mathias Malzieux. Donc Mathias Malzieux, en plus d'être réalisateur, est aussi chanteur et écrivain. Et tout commence en octobre 2007, quand il publie La mécanique du cœur, son troisième roman. Le mois suivant, son groupe de musique Dionysos sort un album intitulé La mécanique du cœur, qui est en fait la retranscription musicale du roman. Et enfin, en 2014, l'histoire est adaptée en film d'animation sous le titre de Jack et la mécanique du cœur. C'est donc l'aboutissement d'un projet cross-média, et aujourd'hui je vais surtout me concentrer sur l'adaptation cinématographique. Alors l'histoire commence en 1874 à Édimbourg. Jack naît le jour le plus froid du monde. Son cœur en reste gelé. Il est recueilli par une sage-femme qui le sauve en remplaçant son cœur par une horloge. Jack survit, mais doit respecter trois règles pour ne pas affoler son mécanisme et risquer la mort.
Il y a trois règles que tu ne devras jamais oublier.
Ne pas toucher à mes aiguilles.
Mais aussi maîtriser ta colère.
Je sais, mon cœur ressemble à un jouet, mais on ne doit pas jouer avec.
Et la troisième, tu ne devras jamais tomber amoureux.
Bon, vous pensez bien que cette dernière règle va être difficile à tenir, surtout quand Jack rencontre une petite chanteuse des rues à lunettes. À partir de ce moment-là, il ne veut plus vivre à l'écart du monde. Compte tenu de la jeunesse du film, il n'y a rien de surprenant à ce que Jack et la mécanique du cœur deviennent un conte musical, une fois porté à l'écran. Et alors là, on a un casting impressionnant. Il y a bien sûr Mathias Malzieux dans le rôle de Jack, Olivia Ruiz, qui pour l'info closer et la compagne de Mathias Malzieux. Donc Olivia Ruiz interprète la petite chanteuse, Miss Acacia. On retrouve aussi Jean Rochefort, Grand Corps Malade, Arthur H., Rosie de Palma, Émilie Loiseau, entre autres. Comme tout conte qui se respecte, l'histoire aborde des thèmes difficiles. Ici, Jack doit faire face à l'abandon, au harcèlement scolaire, au deuil et évidemment à la découverte de l'amour.
Tu ne connais pas une chanteuse minuscule qui se cogne partout ?
Elle s'appelle Miss Acacia et personne n'a le droit de parler d'elle, sauf moi. Tu n'es tout de même pas tombé amoureux d'elle, toi aussi.
Un peu.
Donc vous avez reconnu Grand Corps Malade qui joue le rôle de l'adversaire de Jack et qui est très très crédible avec sa voix impressionnante. Donc l'histoire, que ce soit en film d'animation, est poétique, surprenante et enchantée. Il y a un peu un côté Tim Burton dans le film, je trouve, mais avec une touche indéniablement française. C'est beau, ça met de bonne humeur et les chansons restent longtemps avec vous. Donc c'est donc un film d'animation destiné aux grands enfants, aux adolescents, mais aussi aux adultes. Voilà, c'est vraiment un très très beau film à découvrir. Pour rester avec Grand Corps Malade, je vais maintenant laisser la parole à Sandrine qui va nous présenter Patient, écrit donc par Grand Corps Malade.
Je te remercie, Pauline. Donc effectivement, Grand Corps Malade, de son vrai nom Fabien Marceau, a 20 ans. Le sport, c'est son avenir, il le sait, il deviendra prof de sport. Mais la vie lui réserve un tout autre destin. Après un plongeon dans une piscine dont le niveau d'eau est trop bas, il devient paraplégique. Les moindres gestes de la vie courante, se laver, s'habiller, manger, sont devenus impossibles tout seul. Son autonomie est restée au fond de l'eau. Comment va-t-il remonter à la surface ? Patient, c'est une biographie, un témoignage et également un hommage au personnel hospitalier. C'est le récit de son année de convalescence dans un centre de rééducation pour handicapés lourds. Dépendance, patience, il faut faire avec. Mais l'espoir et la dérision lui ont permis de surmonter les épreuves. Donc je vais vous lire deux extraits de ce roman, Patient, qui a été écrit en 2012. Les toutes premières pages du récit, avec le rythme qui nous tient tout au long du roman.
Je précise juste,
oui.
Roman autobiographique.
Autobiographique, tout à fait. J'ai envie de vomir. J'ai toujours été en galère dans les moyens de transport, quels qu'ils soient. Bon, j'ai pas la même voix que Grand Corps Malade, je suis désolée.
Il va falloir faire un effort.
Je vais faire un peu plus grave. J'ai mal au cœur en bateau, bien sûr, mais aussi en avion, en voiture. Alors là, allongé sur le dos à contresens de la marche, c'est un vrai calvaire. Nous sommes le 11 août et il doit faire bien 35 degrés dans l'ambulance. Je suis en sueur, mais pas autant que l'ambulancier qui s'affaire au-dessus de moi. Je le vois manipuler des tuyaux, des petites poches et plein d'autres trucs bizarres. Il a de l'eau qui lui glisse sur le visage et qui forme au niveau du menton un petit goutte à goutte bien dégueulasse. Je sors tout juste de l'hôpital, où j'étais en réanimation ces dernières semaines. On me conduit aujourd'hui dans un grand centre de rééducation qui regroupe toute la crème du handicap bien lourd. Paraplégique, tétraplégique, traumatisé crânien, amputé, grand brûlé. Bref, je sens qu'on va bien s'amuser. Le moteur s'éteint enfin. La porte arrière s'ouvre, les gestes s'enchaînent dans une certaine urgence et je sens que le brancard sur lequel je suis allongée glisse hors de l'ambulance. Je me prends le soleil en pleine gueule, impossible de garder les yeux ouverts. J'ai l'impression qu'on m'appuie sur les paupières. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas rencontrés comme ça, le soleil et moi, et les retrouvailles sont un peu violentes. D'un pas décidé, l'ambulancier pousse le brancard, on passe une porte. En pénétrant dans ce nouveau bâtiment, je retrouve enfin un peu de fraîcheur. On traverse des couloirs interminables, les néons fixés au plafond défilent par flash. L'ambulancier s'arrête, j'attends. De nouvelles têtes se penchent sur moi pour me saluer, on redémarre. On s'engouffre à l'intérieur d'un ascenseur quand, grand comme une salle à manger, et on traverse de nouveau d'autres couloirs encore plus longs. Je crois que l'architecte de ce centre avait une passion depuis tout petit pour les couloirs. On finit tout de même par arriver dans ce qui devait être ma chambre pour les prochains mois. Deux aides-soignants arrivent en renfort pour me transférer sur mon lit. Pour ça, ils glissent leurs bras sur mon corps et comptent bien fort. 1, 2, 3. Sur le 3, ils me soulèvent d'un coup pour me déposer sur le lit. J'avais déjà vu faire ça dans l'urgence. Cette fois, c'est moi qui suis dans la série. Ça fait un mois que je suis dans l'urgence. Je savoure la fraîcheur de mes nouveaux draps et découvre mon nouveau plafond. Il faut savoir que quand tu es allongé sur le dos dans l'incapacité totale de bouger, ton champ de vision doit se satisfaire du plafond de la pièce où on t'a installé et du visage des personnes qui ont l'amabilité de se pencher sur toi pour te parler. En réanimation, le plafond était jaune pâle. Enfin, je pense qu'à la base, il était blanc, mais il a dû se fatiguer à force de regarder des mecs en galère, des tuyaux plein la bouche. Je connaissais mon plafond de réa dans les moindres détails, chaque tache, chaque écaille de peinture. Il y avait un néon masqué par une grande grille rectangulaire. La grille était composée de 484 petits carrés. Je les ai comptés plusieurs fois pour être sûr. En réanimation, quand on est conscient, on a le temps de faire pas mal de trucs essentiels. Mon nouveau plafond est beaucoup plus blanc, plus proche aussi. Je suis dans une vraie chambre, juste pour moi. Donc là, ça nous met carrément dans le rythme. Hein. Le livre est vraiment tout au long, comme ça, rapide. Enfin, grand corps malade, quoi.
C'est drôle parce que moi, j'ai vu le film, du coup, qu'il a fait derrière. Et on ressent aussi beaucoup cette ironie dans le film.
Complètement, oui.
Et cette lenteur.
Complètement. Je vais vous lire un deuxième extrait. Et là, c'est un grand moment de solitude. Pour moi aussi. J'ai perdu la page. Un jour, j'ai loupé la cantine à cause d'un léger problème technique. Après la séance de rééducation et juste avant le repas de midi, tout le monde repasse dans sa chambre pour récupérer les médicaments que les infirmières ont préparés sur nos tables de nuit. Ce jour-là, je suis sûrement le dernier du couloir à repasser dans la chambre. J'entre, je roule jusqu'à la table de nuit, récupère les 3 ou 4 petites pilules, fais demi-tour, reprends la direction de la sortie et là, au milieu de la chambre, mon fauteuil s'immobilise et s'éteint. Il faut savoir que les fauteuils électriques ont une batterie dont l'autonomie est assez limitée. Il faut donc les mettre en charge toutes les nuits. Là, visiblement, les 2 soignants du soir ont oublié de le faire et me voilà bloqué au milieu de la pièce, exactement à égale distance des 2 lits. Impossible d'accéder aux sonnettes reliées au bureau des aides-soignantes et des infirmières. Impossible d'atteindre la mienne à proximité de mon lit, ni celle d'Eric. Je tente de donner de la voix, mais avec mon manque d'abdominaux, mes cris souffrent d'un ridicule manque de puissance. Personne ne répond. De ce côté-là du couloir, tous les patients déjeunent à la cantine et tous les aides-soignants sont déjà en place. Quant aux chambres individuelles, elles sont trop éloignées de moi pour que les aides-soignants qui font manger les patients dans leur chambre puissent m'entendre. Je tente de crier à nouveau de toutes mes maigres forces, mais ça ne sert à rien. Au début, la situation m'a paru cocasse, mais rapidement, ça ne m'a plus amusée du tout. Putain, c'est pas possible, je vais pas rester là plantée comme un con pendant tout le repas, j'ai super faim. À la cantine, il y a quelques habitudes, mais les places aux tables ne sont pas vraiment fixes. Il se peut très bien que personne ne remarque mon absence avant 3 bons quarts d'heure. J'attends. Au moins, si j'étais tombée en panne devant la fenêtre, je pourrais regarder dehors. Ce serait moins chiant. Mais non, je suis assis au milieu de ma chambre et j'attends en faisant... ben, rien. J'ai l'impression d'être Michel Blanc dans Les Bronzés font du ski quand il est bloqué sur le télésiège alors que la nuit tombe. La situation est à peu près aussi ridicule. Jamais cette chambre ne m'a semblé si grande. Je ne suis pas attachée à mon fauteuil, la porte est grande ouverte, et pourtant je suis prisonnier, enfermé dans mon immobilité. Une fois de plus, j'attends. Le sentiment que je ressens à ce moment-là est difficile à décrire. Ça ressemble à un mélange d'impuissance et de frustration.
Bel extrait.
Donc effectivement, comme tu disais, ce roman autobiographique a été adapté en film. Donc Patient, qui s'appelle pareil que le roman autobiographique. Et on peut le retrouver sur la médiathèque numérique que nous vous proposons donc en streaming gratuitement sur, dans les médiathèques de Bourthe et de Breteuil.
Oui.
Voilà, donc c'est juste un abonnement gratuit.
Et alors pour celles qui ont vu le livre et vu le film, est-ce que les deux sont proches?
Oui, on retrouve effectivement le même rythme. Maintenant, il y a des passages qui sont rajoutés dans le film. Ça colle quand même pas mal au roman.
C'est complémentaire.
Voilà, c'est complémentaire, oui, tout à fait.
Surtout que les deux sont écrits, faits par Grand Vore Malade, qui joue dans son propre film d'ailleurs. Il joue son propre rôle.
D'accord.
Je crois, hein, c'est ça.
Non, c'est un comédien.
Mais en tout cas, c'est lui le réalisateur.
D'accord.
Donc, du coup, il y a vraiment le regard. Dans les deux.
Donc vous nous conseillez aussi le film ?
Ah, complètement.
Oh, oui. Ah, oui.
Complètement. On peut faire, c'est complètement complémentaire.
Et donc, pour rester dans la thématique Grand Corps Malade, nous allons écouter Espoir Adapté.
Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations.
Avec une enclume sur le dos, les pieds liés, le vent de face. C'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches. Trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le goût de la sueur entre deux barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté.
Been trying to let it go, been trying to free my soul. But all the friends that I have lost, and all the scars that I have left, my body embodies all my sorrows. My bones mirror my own morals. Now I don't need nothing more than to feel my heart bounded. I'll hold on to this second chance, I'll breathe.
Sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté c'est faire le deuil de tous les autres, sourire encore ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là qui m'ont porté au propre comme au figuré, ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.
Alors, nous venons donc d'écouter Grand Corps Malade avec Espoir Adapté, qui fait partie de la BO du film Patient. Petite rectification sur ce qui a été dit plus tôt. Le réalisateur du film Patient est Mehdi Idir. Voilà, les choses sont remises au clair.
Alors, moi, j'ai apporté trois livres, dont un album, Mon papa est malade, d'Antonia Altmeyer et Gaëlle Kallak. Alors, les éditions. Le buveur d'encre. Voilà. Donc, il faut savoir qu'Antonia Altmeyer est psychologue dans un service d'oncologie médicale et de radiothérapie au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard. Alors, papa est malade, il a un cancer. C'est quoi ? C'est grave ? Est-ce de notre faute ? Que lui fait-on à l'hôpital ? Se demandent ses enfants. Donc c'est un album avec des petits rabats. Donc on présente la famille, voilà, le père, la mère, les enfants. Et on voit que le papa, il est triste, il a le visage, il n'est pas comme d'habitude. La maman est préoccupée, et les enfants se disent si papa est malade, est-ce que c'est de ma faute? Donc ils vont trouver du réconfort, voilà, chez les grands-parents, auprès des copines. Et c'est un album donc du coup adapté aux jeunes enfants, on va dire à partir de 5-6 ans quand même. Donc les illustrations sont en adéquation avec le texte. Donc on explique que les mauvaises cellules, grâce à la chimiothérapie, on va enlever ces mauvaises cellules qui sont dans le corps, du papa. Donc on montre les séances de chimiothérapie, les appareils et également une présentation du personnel soignant, donc à commencer par le chirurgien qui va enlever la partie malade, l'oncologue, donc la spécialiste, donc avec une petite définition dans la partie rabat, l'infirmier, le psychologue, le radiothérapeute, le manipulateur de radiothérapie, la diététicienne, parce qu'il est important aussi de bien manger quand on est malade, l'assistante sociale. Et donc, le jour de l'opération, tout le monde pense à papa. Papa va revenir à la maison. Il doit encore poursuivre son traitement. Il doit retourner régulièrement à l'hôpital. Mais les enfants, surtout, n'ont plus peur qu'on leur cache des choses. Et même si papa va mieux, il n'a pas encore retrouvé la forme, mais il partage des activités en famille. Donc, c'est vrai qu'en littérature jeunesse, on a peu de choses sur ce thème-là. On a des choses sur la peur, l'apprentissage de la propreté, etc., etc. Alors, la maladie est évoquée aussi dans une autre collection, la collection Max et Lily, avec le titre « La copine de Lily a une maladie grave ». Donc là, encore pareil, la copine qui se fait opérer, qui perd ses cheveux. Qui un jour a de la fièvre, par exemple, parce qu'effectivement ils veulent avoir aussi une vie la plus normale possible, ce qui n'est pas facile avec les traitements. Et donc cette petite fille est avec Lily en voiture et elle dit: j'en ai marre, j'en peux plus, je vous déteste tous, je vais être comme les autres. Et les semaines, les mois passent, elle revient de plus en plus souvent à l'école. Et donc Lily, qui est proche de Zigzou, la petite fille touchée par la maladie, se dit: est-ce qu'il faut souffrir autant pour savoir ce qui compte dans la vie? Elle se dit intérieurement: il faut savoir profiter de chaque instant. Et voilà, donc là, il y a quand même ce message d'espoir. Alors, une autre petite fille très attachante, c'est Boule à Zéro. Bon, on a tout compris, donc c'est Ernst et Isidrou. Donc c'est une petite fille, alors voilà, qui s'appelle Zita, mais ici à l'hôpital La Gaufre, tout le monde m'appelle Boule à Zéro. Je souffre d'une espèce de leucémie qui semble trouver mon organisme particulièrement à son goût. Donc samedi, je fêterai mes 13 ans. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Et si vous pouviez emmener ma maman avec vous, parce que bon, etc., etc. Alors c'est une petite fille qui effectivement dans l'histoire a 13 ans, mais elle a passé déjà des années, à l'hôpital, ce qui fait que c'est un peu son quartier général. C'est pas du tout misérabiliste. Alors effectivement, elle pactise avec le personnel hospitalier pour qu'on lui apporte des bonbons, enfin voilà, des choses. Et c'est, comment dire, il y a beaucoup d'humour, évidemment.
Je précise que Boule à Zéro est une bande dessinée. Et donc il y a combien de tomes actuellement?
Je dirais au moins 4.
Je crois qu'il y en a 4. Oui. Oui,
d'accord.
Oui, c'est ça, parce qu'on va les acquérir à Breteuil et on a vu qu'il y en avait 4 de paru.
Donc les filles, avez-vous à Verneuil ou à Bourges?
Non, on n'a pas. Et donc, si j'ai bien compris, ton premier album, Mon papa est malade, c'est à la fois une histoire et un documentaire?
Moi, je l'ai mis en album.
D'accord.
Après, effectivement, oui, ça peut se prêter aussi, ça peut être mis en rayon documentaire, parce que...
Oui, voilà, c'est tout l'aspect vraiment description des différents médecins.
Tout y est dit simplement, je trouve que...
Oui, ça a l'air imagé justement et très doux aussi au niveau des illustrations. Donc je me dis que ça peut aussi être intéressant pour des enfants dont papa n'est pas forcément malade, mais qui veulent comprendre les maladies graves en général.
Voilà, parce que même
il m'a l'air bien...
Parce que c'est vrai que la maladie comme la mort, c'est souvent un sujet tabou dont on dit... On peut être tenté de répondre aux enfants, enfin de rien répondre du tout, ou de répondre tu comprendras quand tu seras plus grand.
On ne sait pas non plus comment répondre, et les livres peuvent aider justement à traverser ce moment un peu difficile et à trouver les bons mots.
Oui, tout à fait.
Et en plus, ce livre, ça paraît pour les plus jeunes quand même. Mon papa est malade, je pense à partir de 5 ans.
Ouais, mais elle disait 5-6 ans, effectivement, ça a l'air d'être ça. Hein.
Disons, parce qu'il est quand même un petit peu long. Il y a. Même si les phrases sont courtes, il y a quand même un peu de texte, donc c'est pour
retenir l'attention de l'enfant. Après, on n'est pas obligé de lui lire non plus en continu, mais aller chercher...
Sélectionner les passages.
Ouais. Et ça peut aussi aider les parents à trouver les bons mots. Et...
Ouais, c'est oui, ça. Tout à fait.
Comment c'est un peu en plus, dans ton choix de livre, ça va de 5 ans jusqu'à l'ado, en fait.
Oui, parce que Boule à zéro, c'est vraiment une BD humoristique dans le même genre que Les Profs, mais de meilleure qualité et sur le thème de la maladie. Donc, du coup, c'est...
Ça aborde les ados.
C'est chouette.
C'est parce que c'est musique ?
Ouais.
Oui.
Moi, je m'entendrai le dire.
D'accord.
Musique !
Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher.
Écoutez Speed de Zazie, son dernier tube. Donc Anne-Marie vous a présenté Mon papa est malade, un album d'Antonia Altmeyer. La copine de Lily a une maladie grave, donc la collection Max et Lily de Dominique de Saint-Marc. Et la bande dessinée Boule à zéro d'Ernst et Zidrou. Et du coup, je vais laisser mes collègues Pauline et Priscille vous parler de la manifestation du mois du film documentaire.
Thank you.
Et oui, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire une petite présentation du mouvement qui, du coup, est né... j'ai pas regardé quelle est...
1999.
Donc 19 ans a priori.
Heureusement que Sandrine suit.
Tout à fait. Donc du coup, c'est partout en France. Tout le mois de novembre, il y a du coup des projections de films documentaires dans les lieux culturels. Donc nous, dans l'heure, c'est surtout les médiathèques.
Alors dans l'heure, c'est depuis 2012. Hein.
Oui, 1989, dans l'heure, c'est bien plus tard. Oui, bien sûr. Et du coup, souvent, c'est, enfin, normalement, ces projections sont présentées gratuitement et proposent la possibilité de rencontrer un intervenant, un réalisateur, voilà, pour parler un petit peu plus de la thématique dont le film a parlé. Du coup, on est deux autour de cette table à participer au mois du film documentaire. Donc, il y a la médiathèque de Breteuil qui vous proposera une projection le samedi 24 novembre à 18h. Et ce sera le film « Quand j'avais 6 ans, j'ai tué un dragon ». Film de Bruno Romy. Alors, Bruno Romy est un réalisateur qui a fait aussi des films de fiction. Notamment le film La Fée, il y a quelques années, qui a pas mal tourné. Et là, en fait, il va vraiment parler de lui. C'est un film, on pourrait dire, autobiographique, qui présente sa famille dans le cadre de la maladie de sa fille. Donc le film, certes, n'est pas gay pour son sujet. Donc c'est la petite Mika, en fait, qui, en 2012, est atteinte d'une leucémie. Et son papa décide de combattre la maladie, entre guillemets, en filmant. En y ajoutant une touche humoristique, de l'ironie, un petit peu comme le film Patient, où on sent vraiment ce côté ironique dans ses paroles. Et ben là, on le ressent par des images vraiment travaillées. Et la petite fille, en fait, on ressent vraiment l'atmosphère de cette famille. Et la petite fille qui joue le jeu avec son papa, une vraie complicité entre le papa, la maman et la petite fille. Et on les suit du coup dans tout le processus de guérison. C'est un film où on ne pleure pas, malgré les larmes faciles. Je vous assure qu'on l'a regardé avec Amélie. On a été énormément touchés, mais on n'a pas du tout pleuré, parce que la façon de filmer, on voit les dessins de la petite fille qui évolue au gré de la maladie et de son âge. Elle se déguise pour combattre les microbes à l'hôpital, etc. On voit aussi la complicité avec le milieu médical. C'est vraiment quelque chose, un film... Voilà, et les journalistes avaient dit un carnet de bord coloré, singulier, plein d'humour et de poésie. Un film intime et bouleversant, universel, efficace, grave et léger, drôle et pas drôle. Et c'est vraiment ça, donc je vous invite fortement à venir le voir. Surtout que nous faisons venir le réalisateur, donc Bruno Romy, qui pourra nous dire déjà comment Mika va aujourd'hui et comment il a vécu vraiment toute cette épreuve. Magnifique film, en tout cas, de Bruno Romy, à découvrir le 24 novembre à 18h à la médiathèque de Breteuil. Et du coup, je vous laisse la parole à Pauline, qui va nous présenter le film qui sera projeté à Verneuil.
Donc nous, ce sera le samedi précédent, le 17 novembre, également à 18h. Et donc à la médiathèque de Verneuil, nous vous proposons « La bouteille à la mer ». Donc un documentaire qui suit le parcours de Fred, 32 ans, qui entame sa troisième cure de sevrage à l'alcool en un an. Dès le début, on apprend que Fred boit jusqu'à 10 litres de bière par jour, qu'il se paie en interprétant ses chansons dans la rue. Épaulé par sa nouvelle compagne, il tente de vaincre enfin son alcoolisme. Donc il est filmé par Pierre-Yves Moulin, le réalisateur, qui est lui-même un ancien alcoolique, qui s'en est sorti grâce à une cure de désintoxication. Il filme avec pudeur les patients de cet hôpital en Isère qui se livrent sur leur addiction, mais il donne aussi la parole à leur entourage.
Moi, c'est obligatoire. Le matin, il faut que je boive parce que, même à 7h du matin, si je me réveille à 7h du matin, il faut que je boive pour commencer ma journée. Parce que sinon, c'est impossible pour moi. J'ai été bûcheron, berger, tu vois, enfin, j'ai parcouru la montagne, coupé les arbres. Enfin, tu vois, j'étais plutôt dans le physique, quoi. Et là, j'y arrive plus. À cause de ça.
T'arrives plus à...
Ah bah non. C'est impossible pour moi. Salut patron. C'est très dangereux ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne part jamais sur une tournée du patron, donc je vais être vigilant. Prends-le après.
Ah, la prochaine fois, ça sera rien.
Donc, vous venez d'entendre donc Fred, qui est... Cette scène se passe un peu avant qu'il rentre à l'hôpital, donc où il boit ses derniers verres d'alcool avant son sevrage. Et, à travers ces récits à cœur ouvert, le spectateur est le témoin de cette maladie vicieuse et de toute la force, la détermination et le courage nécessaires pour l'accepter et s'en sortir. Donc, comme pour Breteuil, le film sera suivi d'un échange. Alors nous, ce sera avec Émilie Couvreux et Corinne Delosier, qui font partie de l'association départementale d'insertion santé et de soins des addictions de Verneuil-Davray-Ditton. Donc on espère vous voir nombreux. Ce sera donc le samedi 17 novembre à 18h.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit, bien évidemment. Et voilà, c'est la fin de ce Délivrez-vous du mois d'octobre. Faire une émission littéraire sur le thème de la maladie, il fallait oser. Malgré tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'on n'a pas trop plombé l'ambiance.
Non, je ne pense pas. Et puis, bah, comme je le pensais tout à l'heure, justement, la littérature et tous les médias culturels permettent vraiment de parler justement de sujets qui nous touchent d'une manière ou d'une autre. Et donc là, du coup, forcément, des sujets sensibles, mais avec beaucoup de discrétion et de finesse.
En tout cas, j'espère que l'on... Excusez-moi, je tombe malade, justement. J'espère qu'on vous a donné envie de découvrir ces romans et ces films, mais aussi de venir nous voir pour les projections du mois du documentaire, donc le 17 novembre à Verneuil et le 24 novembre à Breteuil. Pour ce qui est de Délivrez-vous, rendez-vous en novembre autour du thème du conflit, centenaire de la Grande Guerre oblige. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
À une prochaine.